Chers lecteurs, auditeurs de Vertémiste, on est de retour pour les podcasts avec Delphine.
Oui, bonjour Benjamin, bonjour chers auditeurs-lecteurs de Vertémiste.
Alors, on va quand même vous dire que c'est la deuxième fois qu'on enregistre ce podcast, puisqu'on a eu une panne de pile.
Et que ça partait dans tous les sens, donc voilà. Il a fallu le refaire. Preuve que le sujet est compliqué.
Alors, le sujet, on parle de quelque chose d'assez costaud aujourd'hui. On va parler d'une série, on va parler d'un peu de cinéma. On va vous parler de Making a Murderer. Alors, qu'est-ce que c'est ?
Making a Murderer, oui, on va tâcher de passer sur des questions parce que, pour en revenir à ce qu'on vous disait tout à l'heure, notre première version, elle partait dans tous les sens, preuve que le sujet est vraiment compliqué et qu'il faut le cadrer. Et en plus, il est problématique, il est polémique. Donc, on va essayer de sortir justement de cette polémique pour être un petit peu plus rationnel. Donc, Making a Murderer, c'est une série de 10 épisodes, un documentaire réalisé par Laura Ricciardi et Moira Demos, qui sont des réalisatrices new-yorkaises. Et cette série a été produite et diffusée par Netflix. Donc jusque-là, pas grand-chose à dire. Sauf que c'est déjà, c'est une série qui porte sur une question judiciaire, sur un procès, une affaire de faits divers, et que deuxièmement, cette série a déclenché une véritable tempête médiatique et polémique aux États-Unis, entre autres, mais ça commence à apparaître ailleurs. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a voulu regarder justement la série, pour voir un peu si ce qu'on voyait passer dans les médias, vu qu'il y a eu beaucoup d'articles consacrés au sujet, si c'était purement sensationnaliste ou s'il y avait vraiment un fond culturel et quelque chose à faire avec le sujet, voilà.
Bon, et donc ça parle de quoi cette série ?
Alors, cette série, elle va nous raconter le parcours de Stephen Avery. Stephen Avery est issu d'une famille blanche de la c'est pas la middle class, c'est juste en dessous, ce sont des pauvres gens, c'est une famille implantée dans la région de Manitowoc au Wisconsin, donc vraiment l'Amérique profonde, et il possède une casse de voiture, sont des ferrailleurs en fait. Et ce garçon a été accusé, alors qu'il avait une vingtaine d'années, il a été accusé d'agression sexuelle avec coups et blessures. Et il a été condamné. Il a fait plusieurs années de prison suite à cette condamnation, alors qu'il clamait son innocence. Et puis, au bout d'un certain temps, on a réussi à prouver par un test ADN que ce n'était pas lui qui avait commis cette agression, mais quelqu'un, et que en plus, il s'est avéré que en fait les autorités judiciaires, police, procureur, etc., avaient mené cette enquête en dépit du bon sens pour prouver sa culpabilité sans chercher le véritable coupable, et qu'ils avaient tout fait pour en faire un coupable, voilà. Donc, sorti de prison, Stephen Avery a commencé à monter tout un dossier pour accuser les autorités judiciaires de l'État, enfin de son comté. C'était parti pour qu'il obtienne des dommages et intérêts extrêmement importants, dommages et intérêts qui n'auraient pas été pris en charge par les assurances des autorités judiciaires concernées. Donc ça voulait dire que c'était les policiers, le procureur, etc., qui auraient dû débourser de leur poche cet argent. Et comme un fait exprès, au moment où justement le procès allait commencer, au moment où une loi venait d'être votée justement, la loi Avery, pour permettre de soutenir les gens qui étaient victimes de procès délictueux comme ça, d'erreurs judiciaires, bim, Stephen Avery est arrêté de nouveau, cette fois-ci le chef d'inculpation est le meurtre, la disparition d'une jeune photographe dont le dernier signe de vie était dans la casse des Avery, où elle aurait été vue en train de prendre des photos pour l'achat d'une voiture, voilà. Donc, de fil en aiguille, le pauvre garçon se retrouve de nouveau sous les verrous, et cette fois-ci avec une accusation beaucoup plus grave. Et ben, on va suivre le, enfin voilà, là on va suivre le deuxième procès, ou alors les erreurs judiciaires, les manipulations de preuves, hein, c'est juste effrayant de voir comment on le coince complètement. Et donc, sachant qu'en plus ça va aller beaucoup plus loin puisque son propre neveu se retrouve mêlé à cette histoire, il y a des extorsions d'aveux qui sont juste inqualifiables. Bref, donc voilà, c'est ça que nous racontent Laura Riccardi et Moira Demos. Il y a 10 épisodes qui couvrent 10 ans de tournage, c'est quelque chose de très très lourd, c'est-à-dire qu'en fait quand elles ont vu la tournure que prenaient les événements, elles étaient parties d'un petit fait divers local, hein, et puis ben, elles ont le truc a grossi en fait, et elles ont suivi ça sur 10 ans, donc ce sont des centaines d'heures de rush, des centaines d'heures d'entretien, elles ont travaillé sur les interrogatoires, les dépositions, les passages du procès, elles se sont entretenues avec les familles des accusés, elles sont revenues sur les preuves, etc. Et l'idée est de nous raconter cette véritable saga. En mettant en avant justement les multiples dysfonctionnements d'un système judiciaire qui n'est absolument pas égalitaire.
Il y a quand même un but derrière ce documentaire, parce que c'est pas un simple documentaire au final.
Oui, alors l'objectif, bah, l'objectif, c'est bon, c'est très très nettement de pointer du doigt. D'une part, les dysfonctionnements de la police, probablement voilà, ils sont le fait qu'ils sont soutenus par les autorités judiciaires, ça remonte quand même jusqu'au congrès enfin, congrès du Wisconsin, etc. Ça remonte très très haut, hein. C'est une manière aussi de dire que, de montrer, de pointer du doigt que quand on n'a pas d'argent, on peut pas se payer un défenseur digne de ce nom. C'est une manière de montrer aussi que on est quand même face à un système clanique, c'est-à-dire que la police, la haute société, etc., font collusion par rapport à ces gens qui sont différents, qui n'ont pas d'éducation, qui parlent mal, qui sont voilà, on voit qu'ils ont pas, ils sont pas allés à l'école, hein, bon. Le petit neveu, il a 70 de QI. Donc voilà, on les considère comme les coupables idéales et tout va être fait pour aller dans ce sens-là. Sachant que quand même, alors là c'est toi qui en parleras le mieux parce que tu connais mieux le système, mais on est face à un système judiciaire très particulier.
C'est vrai que le système judiciaire américain est particulier, ne serait-ce que sur le fonctionnement du jury, tout simplement, pour pouvoir condamner quelqu'un ou pour pouvoir innocenter quelqu'un, il faut que l'ensemble des jurys, alors dans notre situation, il y en a 12 dans la cour, il faut qu'ils soient tous d'accord. Il faut que le vote soit fait à l'unanimité. Il n'y a pas de question de vote à la majorité. C'est-à-dire qu'on aurait 6 jurys qui seraient pour et l'ensemble qui serait contre. Là, il faut que les 12 jurys soient d'accord. C'est cette question qui revient souvent dans la justice américaine de doute raisonnable. Du moment que la défense arrive de prouver qu'il y a un doute sur la culpabilité de l'accusé, ça suffit à annuler un procès. Donc c'est la même question au niveau des jurés. S'il y a doute, il n'y a pas de verdict. Donc c'est quand même délicat puisqu'on part du principe que, par exemple, sur 12 jurés, on en a 7 qui sont on en a 7 qui sont pour et le reste qui est contre, et ben il n'y a pas moyen de trancher pour avoir un verdict un petit peu plus coloré, tout simplement, de dire que ben, il n'est pas forcément coupable ou il n'est pas forcément innocent. C'est soit il est 100% coupable, soit il est 100% innocent. Et ça va quand même poser un gros problème dans ce procès, et c'est bien expliqué dans le documentaire.
Ouais, sachant qu'en plus c'est un procès, enfin la manière dont c'est filmé, le fait bon, on laisse de côté. Bon, moi, j'émets des réserves. On a été quand même un peu. Déjà, il y a quelque chose dans la manière de regarder le film en lui-même, le scénario, le déroulement, la structure du scénario, la manière de monter les différentes séquences. C'est typiquement américain. Ça fait beaucoup penser, notamment aux enquêtes de Patricia Cornwell sur comment. Le livre qu'elle avait fait sur Jack l'Éventreur, aux États-Unis, on a une manière de présenter les argumentations qui est pas celle de pas la manière dont on fait en France, c'est-à-dire qu'on commence par évoquer là où on veut aller, puis ensuite on fait sa démonstration et on revient sur des arguments qui visiblement tiennent pas les uns avec les autres. Donc de ce point de vue-là, moi ça m'a un peu gênée. Par contre, il y a autre chose aussi, c'est que on alterne des séquences très très précises avec de longs travelling sur la casse sous la neige. Voilà, donc il y a quand même un petit côté pathos. Après, on peut pas faire autrement parce que l'idée c'est aussi de montrer que cette affaire a quand même démoli des gens, leur vécu. La famille Avery aujourd'hui, ils sont ruinés, quoi. Le peu qu'ils avaient, ils l'ont plus. Donc ils sont complètement. Et pourtant, ils tiennent. C'est aussi une manière de montrer que un système judiciaire a écrasé des gens et que ces gens, bah, il faut qu'ils recomposent leur vie derrière. Comment on fait? Et à ce titre, il faut quand même souligner que ce sont des sacrés battants parce qu'ils sont encore là. Ils sont pas bien, mais ils sont là. À côté de ça, le pour, c'est que le film, quand même, pose des questions sur le déroulement du procès, plein. On aimerait bien voir toutes les pièces, par exemple, où sont les expertises psychiatriques, le sang, enfin, moi, je suis étonnée, mais il n'y a pas eu une seule étude au luminol. La fille, ils sont censés l'avoir découpée, ils lui ont tiré 11 balles dessus, ils l'ont égorgée dans un lit, enfin, il n'y a pas eu une seule étude au luminol. C'est la base, quoi. Donc, comment ça se fait que ça n'ait pas été fait? Rien que pour ça, on a des preuves qui tiennent pas. Bon, donc il y a aussi le fait qu'ils n'ont pas d'argent, ils peuvent pas se défendre. Aujourd'hui, Steven Avery n'a plus d'argent, il ne peut plus engager d'avocat.
Il n'a plus droit à un avocat comme d'office
Voilà.
puisqu'il a fait toutes les demandes
Voilà.
d'appel. Et donc aujourd'hui, Steven Avery se défend tout seul du fond de sa cellule de prison grâce à la bibliothèque.
Voilà. Donc
Sachant qu'on a quand même affaire à face à quelqu'un qui ne sait pas forcément bien lire, ne sait pas forcément bien écrire. Donc voilà, c'est quand même aberrant. Alors, par contre, c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, c'est ce que montre bien le dernier épisode, c'est que ça a fait tellement de bruit cette histoire que ça a attiré quand même énormément de gens. Ça a fait prendre conscience, c'est aussi une volonté de faire prendre conscience aussi ce documentaire. On a quand même dans le cas donc du neveu de Steven Avery, Brendan Dassey, on a quand même des avocats qui viennent de l'université de Chicago, spécialisés dans les condamnations illégales, dans les aveux arrachés avec des techniques de manipulation, qui sont quand même venus le défendre pour tenter de réouvrir un procès. Donc on espère quand même que le bruit qui a été fait autour. Et toutes les pétitions aussi qu'il y a eu, parce qu'il faut quand même bien préciser qu'il y a eu une pétition qui a été écrite et envoyée à Obama. Malheureusement, ce procès ne relève pas de la justice fédérale, donc n'est pas du ressort du président de la République américaine, mais relève uniquement du comté et de l'État du Wisconsin. Donc on est quand même dans un microcosme où il est difficile d'en sortir. C'est pour ça que, par exemple, sur la cour d'appel, au niveau de l'appel, les avocats de Brendan Dassey ont décidé d'aller ailleurs, de faire une demande pour aller ailleurs. Donc on est dans un système qui apparaît vraiment, vraiment sclérosé, clairement, puisque voilà, c'est un homme qui s'est attaqué à une police, et s'attaquer à une institution comme la police, il est difficile d'en sortir après, sauf si on change d'état ou si on passe à un niveau de justice supérieur.
Ou si on trouve enfin une preuve montrant que bah, c'était pas lui. Et là, ça va être beaucoup plus difficile. Alors, sachant qu'à côté de ça, il y a des tas de pistes qui n'ont absolument pas été explorées, alors qu'elles tombaient sous le sens et que n'importe quel enquêteur digne de ce nom les aurait suivies. Ça veut donc dire que d'une part, alors la personne qui est en prison a été condamnée sur des preuves qui n'en sont pas. Ça, c'est la première chose. D'ailleurs, ils sont deux à être en prison. Il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de tache de sang. Il n'y a pas d'ADN. Il n'y a rien qui tient. Rien. Mais en plus, ça veut dire qu'on a un coupable dans la nature, sachant que sur la première affaire, le coupable, il a donc agressé d'autres gens. Ça veut donc dire que le deuxième, celui qui a tué cette pauvre fille, et qui l'a probablement fait avec énormément de violence au vu de ce qui reste du corps, le type est probablement encore dans la nature et a peut-être très probablement récidivé. Et on n'a pas mis la main dessus. Donc, c'est donc On se retrouve en fait avec d'un côté une police totalement incompétente, aveuglée, qui ne fait pas du tout son travail de façon objective, là où il faudrait que ce soit fait parce que c'est quand même un danger dans la nature, quoi. Hein. Bon, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a aussi une justice à je ne sais combien de vitesses, où il ne fait pas bon être pauvre et issu d'une classe sociale défavorisée. Ce qui relance aussi tout le débat derrière sur les nombreuses erreurs judiciaires qui ont lieu dans les quartiers chauds, avec les populations, les minorités ethniques. Et après, on s'étonne, mais là, on a vraiment un exemple qui est flagrant de dysfonctionnement constant, où la partialité joue à fond et où voilà, tout le système, en fait, est hypocrite au dernier degré. Voilà. Ce qu'il y a d'intéressant. C'est ce qu'on disait. Effectivement, il y a eu des pétitions, il y a des gens qui se sont investis pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Et il y a surtout un énorme débat qui s'est engagé sur Internet. Il y a des sites, il y a des théories, il y a les gens se bougent, ils se bougent face à ça. Donc c'est ça aussi qui nous a semblé intéressant, c'est que cette série, elle a secoué les consciences. Et donc pour la première fois, on se retrouve, enfin pas pour la première fois, parce qu'il y a déjà eu d'autres séries ou d'autres films qui ont été consacrés à des erreurs judiciaires, c'est constant. Mais par contre là, il y a vraiment l'idée de faire bouger l'opinion publique, de pas forcément de dire qu'il est innocent. Parce que ça, au bout du compte, rien ne nous dit qu'il l'a pas tué. Il est devenu dingue au bout de plusieurs années en prison. C'est possible. En tout cas, pour l'instant, c'est pas possible de le mettre de le condamner sur en se fondant sur des preuves qui n'en sont pas. Voyez la différence? En plus, c'est une série qui nous fait réfléchir au sens exact du mot justice, qui n'est pas la vengeance et qui n'est pas on pointe du doigt quelqu'un en pensant que parce qu'il est idiot, voilà, c'est le tueur parfait. Donc ça relance aussi la difficulté d'être équitable et la difficulté d'être dans un système judiciaire et peut-être aussi le fait de peut-être mieux former et mieux encadrer ces gens de justice. Voilà.
Et donc, on pourrait vous en parler pendant des heures, parce qu'au final, cette série nous a quand même bien retourné.
Ouais.
Mais le seul moyen de vous faire un avis, c'est d'aller vous-même regarder. Surtout, nous, on attend avec impatience vos avis, vos retours.
Ouais, alors, sachant que il est dans un état où il ne peut pas être condamné à mort. Il n'y a pas la peine de mort dans cet état. Alors, il y en a certains qui ont sauté sur l'occasion pour réclamer
Le retour de la paix de mort.
voilà, mais il n'est pas, enfin, ça, c'est pas une peine dans l'état du Wisconsin.
Mais
Heureusement.
aujourd'hui, là, il écopait quand même d'une peine incompressible, sachant qu'il a
Voilà, c'est à vie.
perpétuité sans possibilité de libération
Voilà,
conditionnelle.
exactement. Donc ça veut dire que s'il avait été dans un état où il y a la peine de mort, le type, il aurait probablement été, voilà, il serait dans le couloir de la mort. Donc imaginez l'iniquité de ce système, sa violence, son aveuglement, enfin, c'est juste pas possible de laisser les choses fonctionner comme ça. C'est une manière de penser, c'est une culture, et c'est une culture qui fait quand même un petit peu peur parce que, enfin, je suis désolée, c'est le médié, enfin, c'est le Moyen Âge. Donc voilà, c'est pas où est la vérité dans tout ça? Et en tout cas, on ne peut pas s'appuyer. Ce qui nous est montré est totalement inique. Alors ça, en plus, dedans, vous verrez, il y a tout l'impact de la médiatisation. C'est tout un système judiciaire qui est démonté et qui est démonté en montrant tous les rouages, le pour, le contre, la victime, etc. Ça vous donne une vision complète, transversale. Et à mon sens, c'est à regarder aussi si parmi vous, il y a des étudiants ou des lycéens qui vont passer leur baccalauréat de philo, il y a le thème de la justice. Regardez cette série parce que vous allez très très bien comprendre ce que ça implique et que c'est pas la justice, c'est quelque chose de complexe et ça peut pas être tenu par n'importe qui. Voilà. Donc sachant aussi que il suffit que le procès soit réouvert pour qu'on enclenche une saison 2. Hein. Les filles, elles sont prêtes, caméra au point, hein, elles tiennent au courant. Les avocats aussi sont sur le qui-vive. À la moindre, au moindre changement, ils remonteront au créneau. Donc ça enclenche aussi l'idée de responsabilité intellectuelle et morale des médias, des avocats et du public également. Voilà, c'est notre justice ça veut dire que ça appartient au peuple et que le peuple doit aussi dire, attendez, on n'est pas d'accord avec certaines choses. Voilà. Donc vous regardez et puis bah, vous nous dites ce que vous en pensez parce que c'est toujours bon d'avoir des retours. Mais à mon sens, oui, c'est une série de très très bonne qualité, qui a des défauts, qui a des avantages, mais qui a au moins le mérite de pointer du doigt quelque chose qui ne va pas. Voilà.
Et puis, on vous dit à bientôt.
Oui, bien sûr, il va y en avoir
d'autres. D'autres histoires aussi.
Exactement, ouais, exactement, tout à fait.